Bonjour à tout le monde. Bienvenue à tous qui sont ici aujourd'hui à l'Église baptiste évangélique de Trois-Rivières. Nous sommes heureux que vous soyez là parmi nous. Quel jour merveilleux, le jour qui nous permet de nous souvenir de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Aujourd'hui, nous allons voir un seul verset. Peut-être pour ceux qui sont moins familiers avec l'idée des versets, un verset, c'est une phrase. On avait à le simplifier de la Bible. C'est une phrase qui nous parle de Dieu, qui a été dite par Dieu. Et aujourd'hui, on ne verra qu'un seul verset, une seule phrase tirée de la parole de Dieu, une phrase très importante. Le texte est tiré de Luc, chapitre 9, verset 22. Je vous invite à prendre votre Bible et regarder ce texte. Pour ceux qui, pour toutes sortes de raisons, n'auraient pas leur Bible, une partie du verset se retrouve sur le bulletin. Donc, dans la toute première page, il y a une version raccourcie de ce verset et je vous invite à y tourner. Le texte d'aujourd'hui est donc dans Luc 9, 22, un seul verset. Et Jésus dit, dans ce très beau verset-là, il dit, « Il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. » Je le redis une deuxième fois. Il ajouta, qu'il fallait que le Fils de l'homme souffre beaucoup, qu'il soit rejeté par les anciens, par les principaux sacrificateurs et par les scribes, qu'il soit mis à mort et qu'il ressuscite le troisième jour. Quel beau texte! Dieu fait bien des choses. La dernière fois que j'ai eu l'occasion de m'entretenir avec vous, on avait passé en revue une dizaine de domaines dans lesquels Jésus est le maître incontesté. On avait parlé que Jésus est le maître incontesté des maladies, le maître des éléments de la nature, il contrôle les tempêtes, le maître des disciples, le maître des mauvais esprits, le maître de la nourriture, il peut multiplier les pains et les poissons tant qu'il veut, sans aucun problème. Le maître aussi de la vie et le maître de la mort. Ça, c'est l'aspect le plus particulier du ministère de Jésus, l'aspect le plus spécial, il est capable de vaincre la mort. Et Dieu fait très bien les choses, car aujourd'hui même, dans le texte qu'on était rendu dans notre étude de Luc, il se trouve avoir ce verset-là, chapitre 9, verset 22, qui est très riche pour nous enseigner sur la mission de Jésus-Christ. Alors, avant d'aller plus loin, je vous invite à prier avec moi, s'il vous plaît. Ô grand Seigneur, que nous sommes heureux aujourd'hui de te célébrer, de nous souvenir de ta mort, de nous souvenir de ta résurrection qui nous a procuré la vie. Et Seigneur, dans ce court verset qu'on va voir ce matin, je te demande, Seigneur, que tu nous enseignes ce que tu as à nous montrer pour nous faire grandir toujours plus dans ta direction, Seigneur, et de nous donner encore le plus le goût de te connaître et d'être à toi, Seigneur. Au nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, imaginez-vous, mes chers amis, que, chose fantastique, Dieu vous a écrit une lettre. Il vous a laissé cette lettre-là sur votre dans votre chambre à coucher. Et vous avez une lettre écrite par Dieu qui vous dit, voici votre programme pour votre vie. Et que ça serait le fun, hein? Ça serait clair. Voici tous les principaux éléments qui vont arriver dans ta vie. Et là, tu es tout trépignant, tu prends ta feuille avec joie et tu regardes sur la feuille quel est le programme de Dieu pour ta vie. Et tu regardes, tu vois, tu vas souffrir, tu vas être rejeté, puis tu vas être mis en mort. Wow! Disons que tu pognes un slack. C'est ça mon programme? Y aurais-tu une erreur quelque part? C'est ça, moi, mon programme? C'est une raison pourquoi que Jésus nous dit pas tout qu'est-ce qui va nous arriver dans la vie, parce que quand on verrait ça, on serait tous découragés. Dieu nous donne les moyens, mais il nous prévient pas tous à l'avance. Mais il a prévenu Jésus. Regarde, c'est ça qui va t'arriver. Puis Jésus a pris la feuille. Ouais, je vais le faire. Volontairement, je vais y aller remplir ce programme-là. Nous, on aurait plus de difficultés. Voyons en quelques mots quel était ce programme-là pour Jésus. Pourquoi il fallait que ce soit ainsi? Premièrement, la première partie du verset parle de souffrir, d'être rejeté et d'être mis à mort. J'aimerais vous parler du rejet. Et peut-être que ce que je vais dire dans les prochaines minutes, ça va amener un peu votre peine. Ce n'est pas ça mon but, mais peut-être que oui. Je vous le dis à l'avance. Personne n'aime être rejeté. Personne n'aime ce sentiment. On a l'impression d'être à part, d'être laissé de côté, d'être laissé pour compte. Puis on ne comprend pas pourquoi ça se passe. Parce que la plupart du temps, ce n'est pas dû à notre propre pouvoir. Et on est rejeté. Pas plus tard que la semaine passée, j'ai été très surpris de cela. J'ai vu, on me demandait de répondre à une mise en candidature pour parole de vie Bethel, c'est-à-dire de référer une personne, un étudiant qui voulait faire partie de vie Bethel. Et il y avait une partie sur l'acceptation de cette personne-là socialement. Il y avait 5 niveaux. Le premier niveau, le plus haut, c'était « cette personne est recherchée ». Le deuxième niveau, c'était, je pense, cette personne est acceptée, puis là, ça descendait comme ça. Et le dernier niveau, c'était, elle est un rejet. Oh, ça m'a fait de la peine. J'ai dit, cool. Donc, c'est vraiment imprégné dans notre mentalité. Je me souviens quand j'étais petit, moi, à l'école, on disait, on est à part. Maintenant, vraiment, mes jeunes, moi, j'en ai plusieurs jeunes qui vont à l'école comme ça. Puis c'est le nom qui est employé pour les personnes qui sont à part, c'est un rejet. Juste entendre ça, ça me fait mal, moi. Je ne sais pas pour vous, moi, ça me fait mal au cœur. Vous savez, on a toutes sortes d'occasions, malheureusement, dans notre vie, de vivre le rejet. J'aimerais ça vous en donner quelques exemples. Pour certains d'entre nous, le rejet a commencé dès l'enfance. Dès la tendre enfance dans laquelle vos parents biologiques vous ont rejeté, n'ont pas pris soin de vous, vous ont laissé en adoption parce qu'ils ne voulaient rien savoir de vous. Puis là, vous repensez à ça, puis ça fait mal par bout. Parfois, vous êtes resté dans votre famille comme ça avec vos parents, mais il y avait un système dans lequel il y avait des préférences dans la famille. Lui, on va l'aimer, mais lui, on ne l'aimera pas bien, bien. On va le mettre à part. Croyez-le ou non, il y a des familles, ça marche comme ça, c'est normal d'avoir des préférés. Comment se sent le pauvre petit gars, la pauvre petite fille qui est mise à part? Te souviens-tu quand tu étais à l'école primaire et que c'était le temps de faire les équipes? Te souviens-tu de ça? Quand tu arrivais pour faire les équipes, puis choisissais les meilleurs, puis ça descendait. Je suis certain que vous vous rappelez dans quelle position vous étiez. Étiez-vous choisi d'un premier? Dans le groupe du milieu, la plupart du temps, le dernier, tout le temps le dernier. On rit, mais quand on était là à ce moment-là, ça nous faisait de la peine. On n'était pas content. Quand tu as une passion pour jouer au hockey, tu as une passion pour jouer au hockey, tu veux jouer au hockey, puis la première période vient de passer, l'instructeur t'a pas fait jouer. Là, tu commences à ravaler. La deuxième période, ah oui, entre la première et la deuxième, tu as demandé au coach, « Je peux-tu jouer à la deuxième période? » « Oui, 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 tu vas jouer. » La deuxième période vient de passer, tu as resté séché sur le banc. Là, tu pleures. Là, tu es là. M'as-tu joué, coach, à troisième? Coach, il dit oui, 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 tu vas jouer. Puis tu joues pas. Puis tu retournes en pleurant à la maison, défaite. Ouh, aïe, aïe. rejet physique. T'es-tu déjà senti rejeté parce que t'es gros puis t'es grosse? Qu'on t'a traité de gros puis de grosse? Je suis assez direct là, ce matin. Là. T'es un gros, t'es un bon rien. On rit de toi simplement par ta condition physique. T'as pas le contrôle de ça. T'es fait comme ça. Calque! Reject! T'es un rejet. Quand, oh ça c'est triste, quand tu es adolescent maintenant et que ta mère ou ton père meurt et qu'il rentre quelqu'un d'autre dans la famille et que ce nouveau beau-père, sa nouvelle belle-mère-là te tasse, t'as plus d'affaires dans cette maison-là, toi. Là tu dis, t'as un double rejet, tu viens de perdre ta mère ou ton père, puis là tu es rejeté par la prochaine personne qui rentre. Juste comment ça se fait? C'est ma famille, puis je suis mis à part. Quand on rit de toi parce que tu bégayes, tu parles tout croche, puis tu mélanges tes lettres. Ça, c'est sensible, hein? C'est arrivé à des gens ici. J'aimerais vous dire que quand j'étais petit, c'est exactement ce qui m'arrivait. Alors que je mélangeais des lettres dans mon... Quand j'arrivais pour parler, je mélangeais les lettres. Donc, au lieu de dire le V... Pour Yvon, je le prononçais comme un Z. Donc, je m'appelais Yson. Tout le monde a rié. Comment tu t'appelles? Je le voyais dans ma tête. Je m'appelle Yvon, mais je disais Yson tout le temps. Là, je mélangeais les F avec les S. Puis, de temps en temps, même encore aujourd'hui, je mélange les lettres. Ça arrive encore. C'est plus rare. Pouvez-vous vous imaginer comment ça te construit comme personne? À un moment donné, moi, je suis rendu, je ne posais plus aucune question en classe. Ils vont rire de moi. Puis c'est ça qui arrivait aussi. J'arrivais à faire des orales au secondaire, pourri. Pourri, pas capable. Puis plus ça vaut, plus ça l'empire. Puis là, finalement, à un moment donné, je me suis dit, j'avais plus le choix. Je suis rendu peut-être à 18-19 ans. Puis il va bien falloir que je parle en public à un moment donné pour des examens oraux, tout ça. Là, je lui dis, bon, que je me prends en main à un moment donné. Je me prends en main, là, je lui dis, je m'en parlais. Je me suis trouvé un auditoire de 50. Il était 50. Là, je me lance. Tout le monde était très poli, personne ne bougeait. Puis là, c'est à moi à parler. J'arrive pour parler, il n'y a rien qui sortait. Trop pogné. Ils me regardaient tous, immobiles. Vas-y, c'est à toi. Pogné, pas capable. Personne bougeait, très respectueuse auditoire. C'est simple, ils étaient tous drettes comme ça. Doigts comme des arbres. Ils étaient doigts comme des arbres parce que c'était des arbres. J'étais en pleine forêt avec un auditoire que je pouvais contrôler. Puis là, t'imagines-tu, t'es là devant une gang d'arbres, là, dans le fin creux d'une forêt. Tu peux être sûr, personne ne m'a vu. Là, tu vois la gang d'arbres. Puis là, il y a deux situations qui se passent. Si t'es pas capable de parler aux arbres, hey, ça n'a pas d'allure, ton affaire. C'est juste des arbres, ils ne diront pas personne. Puis si tu finis par parler aux arbres, t'es une espèce de crackpot. Fait que moi, je détiens le record avec lui, un record mondial, mais aussi d'avoir parlé le plus grand nombre de fois aux arbres. Mais voyez-vous qu'est-ce que ça provoque, le rejet? Quand tu es célibataire, puis que ta meilleure amie, c'est la tapisserie, ton partenaire, c'est le carreau, ton meilleur ami, c'est le désespoir. Rejet! Quand tu es marié, puis tu désires un enfant du plus profond de ton cœur, puis il n'y en a pas de bébé qui s'en vient, il n'y en a pas, tu désires ça, ça marche pas. Puis là, le système a l'air tout contre toi. Puis là, tu vois les autres couples, puis là, tu te sens rejeté, mis à part. Quand tu envoies des demandes d'emploi, puis il n'y a pas un employeur qui répond à tes demandes de curriculum vitae, ça fait mal, ça. T'es rejeté. Quand tu essaies de passer des examens professionnels pour exercer un métier, puis ça marche pas. Comment tu te sens? Reject! Rejeté. Quand tu es dans l'Église, tu accomplis des ministères, puis on te les enlève, tes ministères. T'es pas bon, toi. Tasse-toi. Ça fait mal. Quand tu es rendu plus vieux, il y en a tellement d'exemples. Quand tu es rendu plus vieux, t'es rendu là, puis tes enfants te rejettent. Ils ne veulent même plus venir te voir pour qu'est-ce que tu as dit ou qu'est-ce que tu as fait. Tes petits-enfants, tu ne peux même pas les voir. Puis on finit, quand tu es rendu vraiment une personne âgée, puis il me semble qu'il n'y a plus personne qui vient me voir. Qui que je suis, moi? Mon but en disant ça, c'était pas de raviver des mauvais souvenirs. Je suis sûr que j'ai ravivé des mauvais souvenirs. On rit comme ça. Mais la seule personne que j'ai osé rire dans toute la prédication, c'est moi-même. Parce que je ne serais pas capable de rire d'aucune personne qui se sent rejetée. Parce que ça fait tellement mal en dedans. Si par tout hasard, vous avez un sentiment comme ça, là, gardez-les pas pour vous. Remettez-les à Dieu. Mon but ce matin, c'était de faire comprendre à tout le monde à quel point on souffre quand on est rejeté. Et que Jésus a souffert et a été rejeté plus que c'est impossible de penser. Jésus a vécu une vie de rejet extrême, total, correspondant probablement à 1 million, à 1 milliard de fois. C'est juste une image que je dis. Qu'est-ce qu'on peut avoir, le pire d'entre nous qui peut avoir vécu? Je me suis attardé à regarder dans la parole de Dieu toutes les occasions que Jésus a été rejeté, et c'est innombrable, j'en prends juste quelques exemples. Ça a commencé dès le début du monde, alors que Ève et Adam ont rejeté le plan de Dieu pour eux autres. Ils ont choisi la mort éternelle au lieu de la vie éternelle. Satan s'est révolté contre Dieu, s'est révolté donc contre Jésus dès le tout début du monde, en voulant dire non, c'est ma voix à moi, pas ta voix, c'est mon plan à moi. Jésus a été rejeté dès sa plus tendre enfance. Hérode a cherché à le faire mourir dès le départ de sa vie. Il était tellement rendu fou qu'il a massacré tout un village, tous les enfants d'un village, pour être sûr que Jésus serait dans le tour. Jésus a été rejeté, on a vu, par Satan qui a essayé de le tenter dans le désert. Jésus a été rejeté dans sa propre ville. Dans sa propre ville! Les gens ont dit, voyons, ça ne peut pas être lui, le Messie. On connaît son père, on connaît sa mère. Et Jésus a été obligé de dire, nul n'est prophète dans son pays. Jésus a été rejeté dans sa propre famille. Jean, chapitre 7, verset 5, nous dit, même ses frères ne croyaient pas en lui. Ça commence à être assez rejeté, ça. Le message de Jésus a été rejeté aussi. Jean 6, 58 nous dit, « C'est ici le pain qui est descendu du ciel. Plusieurs de ses disciples, après l'avoir entendu, dire « Cette parole est dure, qui peut l'écouter? » Dès ce moment, plusieurs des disciples se retirèrent. Ils n'allaient plus avec lui. » Le message de Jésus a été rejeté. La divinité de Jésus a été également rejetée. Jean 10, 23, 32, excusez-moi. Jean 10, verset 32 et 33. Jésus leur dit, je vous ai montré, ça il parle, aux pharisiens à ce moment-là, je vous ai montré beaucoup de belles œuvres venant du Père, pour lesquelles de ces œuvres allez-vous me lapider? Les Juifs lui répondirent, ce n'est pas pour une belle œuvre que nous allons te lapider. Ils ne disent pas que nous projetons de te lapider, que nous allons te lapider, mais pour blasphème, parce que toi qui es un homme, tu te fais Dieu. Ils ont rejeté la divinité de Dieu, de Jésus. Imaginez-vous, ce n'est pas théorique ça, imaginez-vous que vous êtes le fils de, on va l'appeler Jacques, puis vous dites à tout le monde, « Ben moi, je suis le fils de Jacques. » Non, tu n'es pas le fils de Jacques. Tu es d'autre chose, c'est impossible. C'est toute ta nature même qui est remise en cause. C'est pas théorique, pantoute. Le sauveur rejeté. Le fils de l'homme, c'est une appellation pour dire le Messie. N'avez-vous pas lu dans les Écritures, c'est la pierre que les constructeurs ont rejetée qui est devenue la principale de l'angle. Ah! Rejetée par ses disciples. Mettez le mot « ami » si vous voulez. Rejetée par ses disciples. Judas. On connaît tout l'exemple de Judas qui a livré Jésus pour 30 pièces d'argent. Dans le jardin de Gethsémani, les disciples ont dormi au lieu de prier pour Jésus dans l'heure la plus cruciale. Puis quand Jésus s'est fait arrêter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. Quel beau rejet! Pierre. Alors il se mit à jurer sous peine de malédiction. « Je ne connais pas cet homme. » Aussitôt le coq chanta. Tous ces rejets-là, qu'est-ce que vous pensez que ça amène de la part de Jésus, ça? Des souffrances. C'est pour ça que le texte nous dit « Il a souffert beaucoup. » Puis je ne suis même pas rendu à la croix, là. Jésus n'est même pas mort. Avant même d'être mort, Jésus a souffert énormément. Le rejet à son endroit a été intense. Mais il n'avait pas atteint son niveau maximal. Comment peux-tu rejeter d'une façon maximum quelqu'un? En cherchant sa mort. Ça, c'est le rejet ultime. Et il se trouvait quelqu'un pour faire le travail. Qui étaient ces gens, selon le texte qu'on a vu d'aujourd'hui, mes chers amis? Les anciens. Les principaux sacrificateurs qui étaient les responsables de la vie religieuse. Et les scribes, qui étaient les gens finalement, qui étaient versés dans les Écritures, tous ces gens-là connaissaient très bien les prophéties sur Jésus. Ils les connaissaient tellement bien, mais ils avaient tellement implanté leur tradition qu'ils ne voulaient pas entendre parler de Jésus. Ils se sont dit, nous allons le faire mourir. Ils ont menti. Ils ont provoqué le peuple, ces gens-là. Ils ont enfreint les lois. Ils ont convaincu le pauvre Judas de trahir Jésus. Ils sont montés dans le jardin avec des bâtons, comme si Jésus était un criminel. Ils n'ont rien fait pour empêcher Jésus de se faire fouetter et de se faire mettre une couronne d'épines. Ils ont crié plus fort que n'importe qui. « Hôte! Hôte! Crucifie! » à Ponce et Pilate. Pire insulte de tout, le pire rejet de tous, à mon sens. Ils ont dit haut et fort, « Notre roi, il n'est pas notre roi. Notre roi, c'est César, le Romain. » Pourtant, César, il le détestait au plus profond de leur être. Mais on aime encore mieux César que toi, Jésus. Le vrai roi a été rejeté comme ça. Jésus est tombé, le sang a coulé, transpercé d'épines, d'épées et de clous, dépouillé de ses vêtements, souffrant la soif, voyant au pied de la croix sa mère en train de pleurer. Gros rejet, ultime, intense. Je me suis posé la question, comment Jésus a-t-il répondu à ce rejet? Il n'y a qu'un seul mot pour répondre à cela. Et ce mot, il a répondu par l'amour. Un amour assez fort pour dire, « Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. » Un amour qui est assez fort pour dire, « Agent, prends soin de ma mère. » Un amour assez grand pour dire à celui qui était à côté de lui sur la croix, ce qu'on appelle de temps en temps le bon larron, autrement dit le bon bandit, dit d'un autre mot. Aujourd'hui même, tu seras avec moi dans le paradis. Jésus, son amour était assez fort pour accomplir toutes les prophéties de l'Ancien Testament qui le concernaient. Si on fait un retour sur Ésaïe, chapitre 53 et 54, j'aimerais vous donner des versets. Il y a une interaction entre Dieu et son Fils. Regardez bien les paroles de l'Écriture, qu'il fallait accomplir que Jésus a dit oui. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné. Nous n'avons fait de lui aucun cas. Son amour à Jésus était assez fort pour accepter d'être rejeté par Dieu. Nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Son amour était assez puissant pour porter nos péchés, mes chers frères et sœurs. Il a été blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et par ses meurtrissures que nous sommes, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. L'amour de Jésus est assez grand pour venir te chercher alors que tu étais une brebis galeuse et errante. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, loin de l'Éternel. Et l'Éternel a choisi de faire retomber sur lui. Seigneur Jésus, merci encore. Amen.